7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction les Balkans, Michael, et plus précisément la Serbie, véritable impasse pour des milliers de réfugiés.
Ah oui, c'est vraiment ça, hein. Une voie sans issue et au cœur de l'hiver, avec des températures qui peuvent descendre, comme aujourd'hui, jusqu'à moins 11 degrés. 7300 réfugiés sont actuellement hébergés dans des camps et la Serbie est officiellement à la limite de ses capacités, alors qu'ils sont encore plus d'un millier à vivre dans le centre-ville de Belgrade, la capitale, dans des squats totalement insalubres. Bonsoir Olivier Poujade, envoyé spécial de France Inter en Serbie.
Bonsoir Michael.
Alors la municipalité de Belgrade tente vainement d'évacuer ses entrepôts au compte-gouttes. Et pourtant, Olivier, un tout nouveau camp a été ouvert en début de semaine par le gouvernement.
Ces jeunes Afghans que vous entendez ont fini par craquer. Ils sont une soixantaine à tendre un petit morceau de carton sur lequel est inscrit leur numéro d'enregistrement. Ils s'entassent dans le bus qui les conduit à Obrenovac, à une demi-heure de Belgrade. Ce camp a été ouvert en urgence pour éviter un drame au centre de la capitale serbe. Moins 33 degrés, c'est la température la plus froide enregistrée depuis près d'un mois. Cet hiver les épuise.
This is a mobile clinic of Medicine Sans Frontières.
Dans la clinique mobile du docteur Miko Isailovic, un homme est allongé, il est sous perfusion.
Deux hommes l'ont amené. Il attendait chancelant devant le camion. Il a besoin d'être vu par nos psychologues parce qu'il n'arrête pas de pleurer. Ils sont dans une sale situation. Ils ne peuvent pas aller plus loin, mais ils ne veulent pas reculer. On leur dit tous les jours d'aller dans les camps, mais ils ne veulent pas. Ils pensent que là-bas, ils seront déportés, en Afghanistan, au Pakistan.
Accepter d'aller dans un camp, c'est aussi accepter d'y séjourner pendant de longs mois avant d'obtenir l'autorisation d'entrer en Hongrie. C'est le choix que s'apprête à faire Habib, résigné. Ce jeune Afghan de 16 ans n'a plus d'autre option.
Ça doit faire 7 mois que j'ai quitté l'Afghanistan. J'ai passé 3 mois en Bulgarie et 3 mois ici, mais malheureusement, ils ont fermé les frontières.
Et tu as déjà essayé de passer en Hongrie ?
Oui, j'ai essayé deux fois, mais j'ai pas eu de chance. La police m'a attrapé. Ils m'ont frappé. Vraiment frappé. Ils m'ont pris mes chaussures, mon manteau, et ils ont plaqué ma tête dans la neige. C'est une vie de chien. Pas celle d'un être humain.
Donc pas d'autre choix que de rebrousser chemin pour retrouver cette vie de chien dont il parle dans les squats de Belgrade où il passe la nuit étouffé par la fumée des feux de bois dans une température qui ne dépasse jamais 0 degré. Des squats évidemment dépourvus d'infrastructures sanitaires, nous explique Momsilo, ce jeune médecin serbe.
Si vous me donnez l'opportunité de me laver, d'avoir accès à des toilettes, je resterai peut-être 1, 2 ou 5 ans. Donc en gros, pour empêcher les réfugiés de se regrouper quelque part, même si les gouvernements et les ONG ont les moyens de mettre en place cet accès à l'hygiène, c'est la première chose que l'on interdit. L'absence d'hygiène est souvent la meilleure arme contre les réfugiés.
Voilà, on comprend bien, la Serbie fait tout pour déplacer ses réfugiés vers des camps dont ces réfugiés ne veulent absolument pas. Et pour eux, c'est un peu la fin du voyage.
Oui, une impasse, un cul-de-sac, un phénomène d'engorgement provoqué par la politique migratoire hongroise. On est passé en 6 mois de 150 à 10 réfugiés par jour acceptés par la Hongrie, ce qui multiplie du coup le temps d'attente dans les camps de Serbie. Certains sont là pour 5 ans, selon Bruno Rotival, directeur du bureau humanitaire de l'Union européenne dans les Balkans.
Et aujourd'hui, avec des frontières relativement hermétiques, avec un durcissement des politiques dans les pays voisins, on se retrouve avec un nombre accru de réfugiés présents sur le territoire serbe, avec des perspectives extrêmement faibles de pouvoir continuer la route. Le gouvernement serbe est inquiet et de façon légitime. Aujourd'hui, il fait très très froid. Et malgré les efforts du gouvernement serbe, il y a une difficulté de pouvoir fournir de l'assistance à l'ensemble de la population.
La Serbie encaisse ses arrivées, elle a déjà dépassé le quota d'accueil qu'elle s'était fixé, mais continue de jouer les bons élèves car son intégration au sein de l'Union européenne est prévue pour 2019. Et pendant ce temps-là, aux frontières, on dépense beaucoup d'argent pour fermer les portes. C'est ce que regrette Stéphane Moissin, chargé de mission pour Médecins sans frontières ici.
La sécurisation des frontières est un budget énorme pour l'Union européenne qui, effectivement, a ralenti la migration, mais qui a mis beaucoup de gens en situation de danger. Ça n'arrête pas la migration. On voit que les catégories de gens qui continuent à voyager, c'est des jeunes hommes qui sont assez costauds pour pouvoir physiquement surmonter cette épreuve, mais quand on les voit arriver, ils sont dans des situations physiques catastrophiques. Donc ça le fait plus dur, plus long, plus douloureux, mais ça n'arrête pas la migration.
L'Union européenne a aussi débloqué en début de semaine 4 millions d'euros supplémentaires pour aider la Serbie à faire face. Au total, 50 millions d'euros ont été dépensés dans les Balkans. On est ici au cœur de l'incohérence, de l'absence de coordination de l'Europe dans cette crise humanitaire.
Olivier Poujade, depuis Belgrade en Serbie, assisté à la technique de Gilles Gallinaro. Merci à tous les deux.
Et beaucoup plus au nord, direction maintenant la Lituanie, Michael, la Lituanie en quête de son histoire juive.
Oui, en cette veille de la journée internationale de l'Holocauste, l'exemple lituanien mérite qu'on s'y arrête, car le travail entrepris est unique en Europe. Il faut savoir qu'en Lituanie, 90% de la population juive du pays a été exterminée par les nazis, alors que dans l'entre-deux-guerres, Vilnius, la capitale, était surnommée la Jérusalem du Nord. Près de 7 décennies de silence volontaire ont suivi. Mais aujourd'hui, le pays se tourne enfin vers ce passé. Bonsoir Marielle Vituro, correspondante d'Inter à Vilnius. Alors on est au début de ce processus national, d'abord ici chez vous dans la capitale.
Ces dernières années, Michael, l'unique synagogue de Vilnius est toujours remplie pour les célébrations d'Hanouka. Un café de bagel, ces petits pains en forme d'anneau, a ouvert il y a tout juste un an. Mais pour autant, partir à la découverte de Vilné, le nom de Vilnius en yiddish, eh bien, c'est une tâche ardue. Sergei Kanovitch, poète et essayiste, fils d'un grand romancier juif de Lituanie, le confirme.
Quand la mairie traduit le nom d'une rue en yiddish, comme dans le cas de la rue des Juifs, on ne peut pas le nier, le geste est beau. Mais souvent, je reçois des appels de touristes venus d'Israël qui me demandent de l'aide pour trouver dans la ville l'ancienne bibliothèque de Strachoun, l'ancien lycée. Il n'y a aucun signe dans la ville qui peut aider à comprendre qu'il y a à peine 80 ans, une partie très importante de la population de la ville était juive. Les quelques plaques qui existent sont peu visibles et peu entretenu.
Et pour l'instant en tout cas, hein, car les choses sont réellement en train de changer.
En effet, Michael, on assiste à une véritable découverte de cette histoire, mais aussi à une prise de conscience de l'Holocauste. Depuis 2011, plusieurs dizaines de Lituaniens se retrouvent dans plusieurs villes en Lituanie le 23 septembre. C'est la journée de la liquidation du ghetto de Vilnius pour lire les noms des personnes assassinées. Les synagogues en bois du pays sont en cours de restauration et une application pour téléphone portable a été créée pour partir à la découverte du patrimoine juif en Lituanie. Weiner Miriam,
Feinberg Sholom, Feinberg Lina. Et même si juifs et catholiques lituaniens ont toujours vécu côte à côte, hein, plus qu'ensemble, eh bien des liens très étroits se sont tissés entre les deux communautés, Marielle.
Oui, c'est ce qu'explique Mindaugas Kvietkauskas. Il dirige l'Institut national de littérature et de folklore. Mais surtout, il a appris le yiddish et il traduit désormais les grands poètes comme Avrom Sutskever, le poète du ghetto de Vilnius.
Lire un texte yiddish demande des efforts considérables pour déchiffrer les mots qui sont écrits avec l'alphabet hébreu. Mais parfois, à la lecture de certains mots, tu comprends que certains de ces mots te sont très familiers. En lituanien, pour dire oui de manière un peu familière, on dit « yo ». Tout à fait, comme en yiddish. Les autres exemples pourraient être nombreux.
L'arrivée du jeune génération a complètement changé la donne, Michael. Elle découvre que Leonard Cohen ou des prix Nobel sont originaires de Lituanie. Les a priori disparaissent. Gintare travaille dans le café de Bagel, ouvert par la communauté juive.
À l'école, j'ai eu des cours sur l'Holocauste, mais aussi sur l'histoire des Juifs, comme partie prenante de l'histoire de la Lituanie. C'est ainsi que je m'y suis intéressée. J'ai aussi lu le livre de Meras, « La partie n'est jamais nulle », et j'ai été fascinée par l'unité de cette communauté.
Voilà, et cette jeune femme a également été bénévole l'été dernier au mémorial de Panerai, tristement célèbre lieu de massacre, une forêt à quelques kilomètres du centre de Vilnius où plus de 30 000 juifs en juillet 41 ont été tués et entassés dans d'énormes cuves que l'armée soviétique avait creusées un an plus tôt pour y stocker des carburants. Et début 2016, l'intérêt pour ce pan de l'histoire s'est encore accru avec la parution d'un livre choc, livre sur la participation des Lituaniens à l'Holocauste, Marielle.
Oui, cela peut paraître contradictoire en effet, Michael, mais le livre de l'essayiste Ruta Vinagaité, tiré à plus de 15 000 exemplaires, a en quelque sorte crevé un abcès. Fin août, plus de 2000 personnes ont marché à Moletai, au nord de Vilnius, pour commémorer les victimes. C'était encore impensable il y a quelque temps. Il y a une véritable pression populaire sur un establishment qui cherche encore à se débarrasser de la question. Et la clé, Michael, pour les changements reste l'éducation. 119 centres de tolérance ont été créés dans les écoles pour se pencher sur ces questions. Mais pour l'historienne Jurgita Verbitskene, la première universitaire à avoir soutenu une thèse sur l'histoire des Juifs à l'université de Vilnius, des moyens très simples pourraient avoir une efficacité renforcée.
Pourquoi ne pourrait-on pas rajouter trois lignes dans les manuels de physique ? Quand on parle d'Einstein, rien ne serait plus facile de rappeler qu'il était juif et qu'il était membre d'honneur du YIVO, cet institut scientifique juif créé à Vilnius. Si ces rappels étaient plus fréquents, la réaction de la société serait encore plus favorable.
À Chedova, Michael, dans le centre du pays, un musée va être créé pour retracer l'histoire des shtetl, les villages juifs. Plus de 3 millions d'euros ont déjà été investis. Cet intérêt pour l'histoire juive et le développement des lieux de mémoire, notamment en région, pourrait aussi avoir des retombées financières très bénéfiques.
Marielle Vituro, correspondante de France Inter à Vilnius, en Lituanie. Et pour finir, Nicolas, petite devinette. Quel est le rapport entre Donald Trump et cette bande-annonce vieille de 43 ans ? Vous avez reconnu, il y a un petit indice, mais il est léger.
Non, j'ai pas reconnu.
On entend Big Brother dans cette bande-annonce du film 1984, évidemment inspiré du roman éponyme de George Orwell. Et le rapport avec Donald Trump, le voici. Kellyanne Conway, une proche conseillère du président américain, a voulu défendre le porte-parole de la Maison-Blanche qui avait assuré samedi dernier, contre toute évidence, qu'il y avait eu beaucoup plus de monde à l'investiture de Trump qu'à celle d'Obama. Or, on a tous vu les photos comparatives, rien de comparable. Eh bien, Kellyanne Conway ne se démonte pas. Elle parle simplement, je cite, de faits alternatifs, sorte de concept du ni vrai ni faux, et concept au cœur de la politique du gouvernement imaginée par Orwell en 1949, un gouvernement qui contrôle toutes les informations, jusqu'à fabriquer sa propre version des faits, quels qu'ils soient, et à l'imposer à tous comme la vérité. Résultat, cette référence aux faits alternatifs a dopé les ventes de 1984, qui caracole depuis hier en tête des 10 meilleures ventes de livres du site Amazon aux États-Unis. La maison d'édition américaine a même dû en urgence en réimprimer près de 100 000 en deux jours. Merci qui ? Merci Trump. À lundi, Nicolas.
À lundi, Michael.